Les 26 et 28 mars, les Radio Campus sont aux Assises internationales du journalisme de Tours.
On vous donne rendez-vous pour deux grandes émissions spéciales autour de l'inclusion dans le sport et dans le journalisme sportif.
En direct de notre studio public, La Fabrique, au sein du Palais des Congrès.
Avec les Radio Campus de Tours,
Montpellier,
Caen,
Poitiers,
Toulouse,
Orléans,
Grenoble,
Angers,
Brest,
Mulhouse,
Rennes
et Paris.
À quelques mois des JO, comment se porte le journalisme sportif en France ? Quelle place pour les femmes sportives et journalistes sur le terrain ?
Votre émission Femmes et Sport, c'est tout de suite de 16h à 17h sur les Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la seconde émission de Radio Campus en direct des Assises du journalisme de Tours. Assises dont le thème cette année est le sport. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Alice. Salut Alice, comment ça va ?
Salut, ça va et toi Simon ? Moi j'ai totalement la forme. D'ailleurs, les deux émissions ont pour but de questionner l'inclusivité du journalisme sportif en France. Hier, nos consoeurs et confrères ont évoqué principalement le manque de diversité dans les rédactions de sport et le traitement médiatique du parasport en vue des Jeux Paralympiques 2024. Et nous, pendant cette heure d'émission, nous allons nous consacrer aux différentes formes de discrimination que les femmes journalistes ainsi que les sportives subissent au quotidien.
Quelle place occupe-t-elle dans les rédactions ? Comment les femmes sportives sont mises en avant par les médias ? Pour y répondre, nous ferons un focus sur plusieurs aspects, le point de vue des sportives sur leur traitement médiatique, la formation des nouvelles générations de femmes journalistes de sport, la place des femmes dans le e-sport, mais aussi les changements qu'il y a eu ces dernières années grâce notamment au combat de certaines femmes.
Mais tout de suite, focus sur le parcours de combattants que doivent affronter les femmes journalistes de sport.
Les Radio Campus en direct des Assises internationales du journalisme de Tours, Femmes et Sport, 16h-17h.
Mercredi 20.
Mechdeline Miri, journaliste sportive et notamment rédactrice en chef du magazine Les Sportives, notamment, et membre de l'association Femmes journalistes de sport. Bonjour Mechdeline.
Bonjour.
Comment tu as trouvé ta place en tant que journaliste et notamment en tant que journaliste sportive ?
Alors c'est une vaste question, mais parce qu'on est toujours en train de créer, de trouver sa place, je dirais, dans cette profession. Ça fait 10 ans que je suis journaliste sportive, mais surtout moi je suis pigiste, donc je suis pas titulaire dans un média, j'ai pas entre guillemets une place bien établie, même si ça fait 8 ans que je travaille pour le magazine Les Sportives. Ça ne fait que 2 ans et demi que je collabore avec l'Humanité, ça ne fait que 2 ans et demi que je collabore avec Eurosport par exemple, ou que je commente le handball sur Handball TV. Donc, moi, c'est comme ça que je conçois ma carrière, ma profession, etc. J'ai absolument pas envie de m'enfermer dans une rédaction. J'aime bien faire plein de projets, donc ça implique une sorte de remise en cause permanente. Mais voilà, cette année, j'ai signé l'autobiographie d'Alison Pienaud et j'ai dirigé l'écriture d'un livre collectif faisant le portrait de 80 championnes olympiques et paralympiques par 80 journalistes sportives. Donc, c'est que des projets qui m'intéressent énormément et je suis très contente de faire les choses comme ça.
Et en tant que femme, est-ce que ça a été un frein, notamment dans le journalisme sportif ?
Alors, c'est dur de... Enfin, généralement, quand on ne vous recrute pas quelque part, on ne vous dit pas « je ne vous recrute pas parce que vous êtes une femme ». Donc, c'est dur de répondre à cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que dès mon premier stage en journalisme sportif, 2 semaines à la fin de mon, la fin de mon premier stage, il y avait un journaliste de la rédac qui me proposait de partir à New York avec lui. Et j'ai cru que c'était pour couvrir l'US Open et en fait, pas du tout. Et donc, tout de suite, à 22-23 ans, ça m'a mise dans cette ambiance-là où on ne sait pas... voilà, je me suis tout de suite demandé comment je m'étais comportée, est-ce que c'était de ma faute, s'il avait pu croire que, etc. Puis après, je me suis dit, non, mais en fait, ne te reproche rien à toi, tu n'as rien fait et t'es le bon comportement, c'est lui qui n'est pas en train d'avoir le bon. Et puis surtout en avançant dans la profession, j'ai vu et subi d'autres marques de sexisme, même si franchement j'ai pas vécu grand chose par rapport à d'autres consoeurs, mais j'ai bien vu à quel point effectivement dans certaines rédacs les consoeurs pouvaient me raconter des choses assez atroces et donc on est très peu de femmes dans cette profession parce qu'on ne s'y projette pas, en tout cas on s'y projette moins que les garçons, mais parce que oui, cette profession pour l'instant est plus dure à exercer pour les femmes que pour les hommes. Pourtant le sport n'appartient à personne et évidemment que tout le monde doit le commenter, l'analyser et voilà, et ça doit absolument progresser là-dessus.
Et est-ce que justement il y a des sports qui sont plutôt donnés à des femmes sur les plateaux? Même des compétitions d'un plus ou moins grande échelle.
Globalement, au-delà des plateaux télé, de toute façon, que ce soit en presse écrite, en radio, globalement, les journalistes sportives, elles sont plutôt poussées à couvrir des compétitions féminines, en fait. On est encore dans ce vieux schéma-là, quoi. Par exemple, au commentaire, il y a déjà de toute façon peu de femmes qui font du commentaire sportif, mais en plus de ça, les femmes, elles sont plutôt dirigées pour commenter du sport pratiqué par les femmes que par les hommes, alors qu'en fait, bon, un match de tennis, un match de handball, à la fin, quand on sait le commenter pour les filles, évidemment qu'on sait le commenter pour les masculins, mais je sais pas bien pourquoi les chefs pensent que c'est malin de faire ça, j'avoue que je ne sais pas, je n'ai pas compris.
Et est-ce que tu as perçu parfois un rôle un peu particulier sur les plateaux des femmes journalistes? Il y avait Marie Portolano hier lors de la soirée qui disait que toutes les femmes se ressemblaient. Tu as ressenti cette chose-là, toi?
Alors moi, j'ai jamais travaillé en télévision. Je commente sur Eurosport, mais je fais ça derrière. Enfin, je suis pas face à la caméra. Oui, bien sûr, Marie Portolano, elle a mis le doigt sur quelque chose qui est visible pour toutes et tous. En fait, quand on regarde une émission de sport à la télé, généralement il n'y a qu'une seule femme en plateau. Quand il y en a deux, c'est qu'il y a une consultante. Parfois il n'y a qu'une consultante et il n'y a pas de journaliste. Les femmes journalistes de sport ont effectivement toutes le même profil. Elles sont jeunes, elles sont minces, elles sont souvent blondes, elles sont blanches, et généralement on ne leur confie pas les clés de l'analyse technique. Elles sont là surtout pour le paraître. C'est ce que Marie Portolano dit dans le livre qu'elle vient de publier, et absolument tout le monde on est conscient quand on regarde la télévision, c'est évident.
Et donc il y a une sorte d'objectification de ces femmes finalement.
Tout à fait.
Et donc forcément avec cette sous-représentation des journalistes sportives, il y a aussi un souci avec la mise en visibilité des sportives elles-mêmes, ces sportives qui ont moins de couverture médiatique.
Oui, alors même si je ne suis pas sûre qu'on doive automatiquement lier la couverture du sport au féminin et les journalistes sportifs, parce que sinon ça voudrait dire que les femmes ne peuvent couvrir, commenter que des femmes et inversement. Donc il ne faut pas que ça incombe aux journalistes sportives d'être les seuls à proposer des sujets sur le sport au féminin. Et voilà, et évidemment l'inverse est vrai aussi pour les masculins. Même si on voit, on constate que les sujets autour du cycle menstruel, autour de la question de la maternité, qui peuvent être des sujets plus portés sur l'intimité, sont peut-être plus facilement portés par effectivement des femmes journalistes. Mais en dehors de ces sujets-là, et même en fait, évidemment que les hommes ils peuvent les couvrir, quoi. C'est sport, donc. Le problème, c'est surtout que le sport a été organisé par les hommes, pour les hommes, et depuis très longtemps, depuis 150 ans. Et en fait, il faut que ça change, quoi. Le sport n'appartient à personne, encore une fois.
Tu parlais tout à l'heure de cet homme qui t'avait invité à New York. Il y a toujours des structures de domination qu'on voit, et notamment des VSS, des violences sexistes et sexuelles. Il y avait une sorte d'omerta dans le sport pour les sportives, notamment. J'ai l'impression qu'elle se brise un peu, notamment avec Balance ton grimpeur récemment.
Oui, effectivement, c'est très intéressant, Balance ton grimpeur. Alors, j'ai juste vu le papier de Dorine Besson sur l'équipe. Je n'ai pas encore fouillé la question, mais effectivement, je dirais que ce qui change ces dernières années, quand même, et je suppose que c'est forcément lié à MeToo, c'est la prise de parole des sportives. En fait, avant, je trouve qu'elles étaient... A priori, elles étaient un peu moins nombreuses, ou en tout cas, on les écoutait un peu moins sur leurs différentes revendications. Et les sportives qui prenaient la parole, vraiment, c'était les plus déterminées, les plus, je dirais, construites politiquement pour porter un sujet. Mais ça représentait un tout petit nombre. Et je trouve que... Enfin, j'ai la sensation, maintenant, que la parole des sportives, effectivement, est un peu plus prise en compte, un peu plus... écouter, et que et voilà, il y a des filles qui osent taper du poing sur la table, que ce soit par rapport à leur équipementier, à la maternité, comme Clarisse Agbenienou, que ce soit tout simplement pour parler du sujet de la santé mentale, je pense à Clopâtre Darleux ou à Laura Glauser. Voilà, il y a plein d'athlètes ces derniers temps qui vont parler de ce genre de sujet-là. Mais je dirais que ça s'accompagne d'un mouvement général, parce qu'en fait, même les hommes, j'ai l'impression, parlent plus de santé mentale, par exemple, ces dernières années. Et ça, c'est un signe aussi que le féminisme, il permet à toute la société, je trouve, d'être... de sortir un peu des stéréotypes genrés et de ces hommes qui doivent être forts en permanence et ne jamais craquer. Je pense au joueur de foot à Vinicius qui du coup là se fait insulter sur les réseaux sociaux parce qu'il a pleuré en dénonçant le racisme qu'il ne peut plus de subir et en fait c'est tellement important que ces prises de parole là elles se fassent et qu'on retombe pas dans des vieux schémas effectivement où les hommes doivent pas pleurer ou je ne sais quoi, c'est important.
Est-ce que ces prises de parole, elles sont assez relayées selon toi par les médias ?
Probablement que ça pourrait être encore plus, mais j'ai l'impression quand même que maintenant avec les réseaux sociaux, quand il y a une information qui nous échappe, si elle prend de l'ampleur, de toute façon, en tant que journaliste, on finit par être rattrapé par cette information qu'on n'a pas voulu du tout traiter. Je pense par exemple à la prise de parole des femmes dans les échecs. En août 2023, ça n'a pas forcément fait beaucoup de bruit au moment où c'est sorti, mais quand même, il y a eu beaucoup de journaux qui l'ont repris. Derrière, les sportives, on a fait un gros sujet là-dessus. L'équipe magazine a fait un gros sujet là-dessus. Voilà, Balance ton grand-père, ça a été lancé le 9 mars. On n'est même pas à la mi-mars que c'est repris. Donc, j'ai la sensation que quand même, les violences sexistes et sexuelles sont plus prises en compte dans les rédactions, probablement qu'avant MeToo, ça paraît certain.
Et est-ce qu'il y a des changements concrets pour ces sportifs d'ailleurs, ou pas encore ?
Non, j'ai l'impression que pas encore, mais aussi parce que la direction du sport est toujours la même qu'il y a quelques années et que du coup, on a beau dénoncer les VSS dans son sport, de là à ce que y ait un réel turnover, une réelle formation différente des entraîneurs, par exemple. Etc. Tout ça prend du temps, hein. Donc le sport est à l'image du reste de la société et les violences sexistes et sexuelles sont extrêmement présentes dans notre société et c'est pas parce qu'on en parle plus aujourd'hui, qu'on y prête un peu plus d'attention, que ça va se résoudre demain. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle du racisme. Bon, le racisme, il n'est pas éradiqué, hein, en France. Donc il va falloir beaucoup de prises de parole et que les responsables politiques et que les dirigeants et dirigeantes sportives fassent en sorte qu'il y ait des réels changements.
Et t'en parlais tout à l'heure, il y a aussi des VSS dans les rédactions sportives. Et est-ce que le fait d'être assez isolé en tant que journaliste sportif, ça peut peut-être exacerber ces VSS ?
Ah bien sûr, c'est parce qu'on est si peu nombreuses, les femmes dans les rédactions sportives, que tout ça se produit. Il y a un effet de meute qui est évident. En gros, les scientifiques ils disent que ouais, il faut à peu près 30% de femmes dans un endroit ou d'hommes d'ailleurs pour que les stéréotypes de genre, on arrive à une atmosphère presque comme si on était à 50%, à 50-50 quand on est déjà à 30. C'est ça qu'il faut réussir à obtenir. Pour l'instant, on est à peu près 15% de femmes dans les rédactions sportives. C'est encore bien trop peu et évidemment qu'il y a encore parfois une ambiance café du commerce qui convient pas sur un lieu de travail et évidemment qu'il faut qu'on soit plus nombreuses, qu'il y ait davantage de jeunes filles dans les écoles de journalisme qui aient envie de faire ce métier et c'est pour ça qu'avec l'association Femmes Journalistes de Sport on intervient dans ces écoles et on a envie d'être des rôles modèles pour les jeunes filles, pour leur montrer que c'est un métier extraordinaire, qu'elles peuvent s'y épanouir, que nous on sera là pour leur filer un coup de main, pour les y aider, pour leur donner du réseau, pour les protéger si elles se retrouvent menacées dans leur rédaction et surtout qu'elles soient plus isolées, quoi. C'est vraiment nos objectifs.
Et oui, avec cette association, donc ce collectif Femmes Journalisme de Sport, vous êtes 8 femmes qui revendiquez donc plus de visibilité, que ce soit pour les sportives, les journalistes, mais aussi moins de discrimination. Et vous avez notamment signé une tribune récemment, Occupons le terrain, c'était le 21 mars dans Le Monde.
Oui, c'est ça, le 21 mars 2021. Alors, c'était au moment de la sortie c'était le matin même de la sortie du documentaire de Marie Portolano, et ça a été la tribune qui nous a permis de lancer l'association. Depuis, l'association a fait du chemin. Quand on la lance, l'association, on est 6 à se demander si on a une bonne idée. Et en fait, le documentaire de Marie sort, notre tribune sort, et je sais plus, une semaine ou deux semaines après, on est 150, et aujourd'hui, on est 250 femmes sur à peu près 300 qui exercent cette profession. Donc, les deux tiers de la profession, en tout cas du ratio féminin, sont à l'association. C'est bien qu'il y a une utilité, c'est bien qu'il y a un besoin. Voilà, effectivement, on est des filles géniales et très sympas, mais c'est pas uniquement pour ça que toutes ces filles, elles sont dans l'association. C'est parce qu'il y a un vrai besoin de se mettre en réseau, d'échanger les unes avec les autres. Par exemple, on a un groupe WhatsApp où on publie toutes les offres d'emploi qu'on voit passer. Bah, ça, concrètement, ça a permis à plein de filles de trouver des piges, un stage, du travail, etc. C'est tellement précieux.
On passe d'une mise en concurrence à une sororité, finalement.
Exactement, c'est exactement ça.
Et tu es aussi rédactrice en chef, on l'a dit, des sportives. Et ce magazine, il est aussi là en réaction à CVSS, à ce manque de visibilité des femmes dans le milieu sportif. Le but, c'est de faire bouger les lignes, finalement.
Tout à fait. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fondé, ce magazine. Hein. C'est Aurélie Bresson. Et oui, elle l'a fondé parce qu'elle voyait bien que les sportives, les athlètes féminines, n'étaient pas présentes dans les médias sportifs. C'est 4,8% en télévision, c'est 9% en presse écrite. Les féminines sont quasiment absentes, en fait, hein, des médias sportifs. Il faut qu'elles soient championnes du monde et même plusieurs fois pour être en une des principaux médias sportifs. Donc, il y a un manque criant. Il y a des histoires à côté desquelles les rédactions sportives et généralistes passent à côté, en fait. Et ils loupent tout un pan de l'information sportive parce qu'ils ne sont préoccupés que par les masculins, que parce qu'il fait potentiellement plus vendre, mais il passe à côté d'énormément de sujets, et avec les sportives, on essaye de traiter ces sujets-là, même si c'est avec nos petits moyens, parce qu'on est une petite rédaction, qu'on publie 2 magazines par an, des podcasts, etc., mais que, évidemment, on n'est pas un grand quotidien sportif.
Mais c'est la responsabilité, finalement, des médias de redonner cette visibilité aussi
Alors, je ne sais pas si les médias... Enfin, évidemment que les médias ont une responsabilité. Et en même temps, il faut distinguer les médias publics et des médias privés qui ont des logiques très internes. Mais effectivement, les médias publics doivent avoir effectivement un objectif de représenter la société telle qu'elle est. Ça nous paraîtrait impossible dans les infos généralistes de ne parler que de certaines populations, des Parisiens du 11e arrondissement. Enfin, j'exagère, mais ça paraîtrait totalement incohérent. Alors pourquoi parler que de Kylian Mbappé et du PSG, quoi ? Je veux dire, c'est pas ça le sport. Donc c'est bien sortir de ce qui est le plus facile à vendre, finalement.
Eh bien, merci beaucoup, Mejdeline Méry, d'avoir répondu à mes questions. Donc, n'hésitez pas à aller lire la tribune « Occuper mon terrain dans Le Monde » et surtout consulter les sportives, aussi bien les articles en ligne qu'un podcast, mais aussi la newsletter. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site lessportifs.fr. Merci.
Merci.
Vous venez d'entendre Mejdeline Méry, journaliste de sport, au micro de Johan. Merci à elle de nous avoir accordé ce temps pour ce sujet si incontournable. Et comme elle le dit, il est important de créer des collectifs, des associations de femmes pour s'entraider et lutter contre ces violences qu'elles subissent au quotidien.
Et ces violences sexistes touchent particulièrement les femmes racisées. L'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés, née en mars 2023, souhaite lutter contre le racisme au sein des rédactions et permet aux personnes victimes de cette discrimination de s'entraider. Axel est allé à la rencontre d'Emeline Audi, étudiante en journalisme et membre d'AJAR, qui a décidé de mener ce combat à travers cette association.
Ce racisme, il se manifeste aussi dans les rédactions, ce que vous dites. Bien sûr, il est contraire au principe de protection de santé, notamment mentale, des journalistes et notamment des femmes. Qu'est-ce que font et que peuvent faire et que doivent faire d'ailleurs les rédactions contre ces comportements racistes et discriminants à l'égard de notamment des femmes racisées ?
Tout d'abord, prendre des décisions, enfin, juger juste, c'est-à-dire soit dire écouter la victime, recevoir son témoignage et aussi par exemple prendre des sanctions envers la personne qui aurait tenu ses propos que ce soit sexistes ou racistes ou autres, en tout cas des propos discriminatoires, et pas être dans la passivité ou dire oh non mais c'était juste une insulte, tu devrais passer à autre chose, parce qu'en fait en tant que racisé on ne sait pas ce que peut ressentir la victime, et je trouve ça bas de minimiser l'acte raciste ou dire que non mais t'inquiète c'est rien, ou même parfois quand c'est que ce soit par exemple une insulte sexiste ou du harcèlement sexuel, on va dire non mais t'inquiète il est comme ça, ou c'est dans le domaine du journalisme, alors que non, on devrait se battre contre ce genre de comportement.
Et est-ce que vous avez observé des rédactions qui ont pris des réelles mesures à ce sujet, ou c'est encore en construction, on va dire?
Alors de tête, j'en ai pas. Et après, c'est vrai que comme je suis jeune journaliste, j'ai pas, on va dire, cette expérience-là. Mais pour l'instant, moi, de mon côté, j'ai jamais été victime de racisme. Et Dieu merci. Et j'espère que...
Vous avez 20 rappels.
On ne sera pas victime ni de racisme, ni de sexisme, ni autre forme de discrimination.
Et on parlait des Jeux Olympiques. En octobre dernier, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avait annoncé vouloir bannir le voile et interdire son port pendant les JO pour ne faire aucune distinction, c'est ce qu'elle disait. De quel œil vous voyez ça, et est-ce que pour vous, c'est une manière d'invisibiliser les femmes, qui plus est racisées?
Quand j'ai entendu ça, j'ai failli tomber de ma chaise, mais littéralement, parce qu'en fait, je me dis, normalement, les JO Paris 2024, c'est les premiers JO paritaires, et je me dis comment, en tant que pays qui se considère comme, enfin, un pays de sport, mais ça se discute, on peut discriminer, pour moi, c'est une forme de discrimination des femmes pour leur religion, alors que le comité olympique international n'interdit pas le port du voile. Il y a des équipements faits pour des femmes de confession musulmane, et je vois pas en quoi leur religion les empêcherait de gagner une médaille. Donc j'ai bien compris le raisonnement de notre ministre, et moi je trouve ça triste de discriminer les femmes, et en plus on se dit féminisme, on discrimine une femme, et en plus c'est pour moi une forme d'islamophobie de discriminer une femme par rapport à sa religion, quoi. Enfin, là, sa confession musulmane.
Vous faites aussi partie de l'association donc Femmes de Sport. Alors, qu'est-ce que c'est cette formation, brièvement, et à qui elle s'adresse exactement?
Alors, cette association, elle s'adresse à toutes les journalistes et même étudiantes de journalisme qui sont passionnées par le sport et qui, soit sont journalistes de sport, qui travaillent dans les rédactions sportives, ou soit des journalistes qui viennent d'être diplômés et qui rentrent sur le marché du travail et qui aimeraient bien être épaulés par des consoeurs qui pourraient les aider à décrocher, à avoir des contacts, que ce soit pour des piges ou des CDD, et aussi à épauler des jeunes étudiantes qui aimeraient en tout cas être journalistes dans le sport. Et notre combat, c'est vraiment d'avoir plus de journalistes, femmes dans les rédactions sportives, parce que c'est vrai qu'il y en a très peu encore. Ça, franchement, il y a une amélioration, mais c'est pas assez, je trouve. Et honnêtement, j'espère que d'ici les quelques années qui arrivent, j'espère qu'on aura plus de journalistes femmes dans les rédactions, que ce soit à la télé ou même à la radio ou en presse écrite.
Est-ce que, selon vous, c'est une formation qui devrait d'office être intégrée au cursus journalistique?
La formation Pas de jeu sans elle, c'est ça?
Femmes de sport, oui.
Ah, l'association en fait, déjà, l'association a fait des interventions dans les écoles pour sensibiliser non seulement dès les écoles de journalisme, mais aussi bien avant, que oui, une femme peut parler du sport, que ce soit masculin et féminin. Parce que c'est vrai, quand on parle de journaliste sportive, on pense qu'on doit être seulement cantonné au sport féminin. Si un journaliste masculin peut faire du sport masculin et du sport féminin, pourquoi une journaliste femme ne devrait aussi pas couvrir le sport masculin? Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, dans ces interventions dans les établissements scolaires, c'est une manière de sensibiliser les plus jeunes ou même les étudiantes sur ces questions-là.
Et pour finir, qu'est-ce que ça vous apporte d'être à la fois membre de la JAR et en même temps de femme de sport? En quoi c'est complémentaire ces deux associations?
En fait, je trouve déjà, je suis une femme noire Et en fait, ces deux associations-là me représentent bien parce que j'aime le sport, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de journalistes sportifs dans les rédactions. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de journalistes racisés dans les rédactions. Et je trouve que ces deux associations me correspondent bien. En tout cas, correspondent bien à mes convictions, pardon. Et j'espère que, en tout cas, ces deux associations, elles vont prospérer et permettre d'avoir plus de diversité au sein des rédactions parce qu'on en a besoin, et ça va permettre aussi d'avoir, en tout cas, les médias pourront avoir une couverture médiatique plus diversifiée sur la France, sinon on a toujours le même point de vue, quoi. Et quand je dis diversité, c'est aussi diversité sociale, donc des journalistes qui viennent soit des régions un peu plus rurales ou des quartiers populaires comme moi, parce que moi je viens de Neuilly-sur-Marne dans le 93. Et je trouve que non seulement la diversité passe par diversité homme-femme, diversité personnes racisées, mais aussi diversité sociale.
Merci Emeline Audi, membre de ces deux associations que sont la JAR et Femmes Journalistes de Sport, deux organisations présentes aux Assises du Journalisme de Tours.
Et elle n'est pas journaliste de sport ni même sportive, mais elle est pressentie pour performer lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Je parle bien sûr d'Ayana Kamura. Je vous propose d'écouter son titre fin. On se retrouve dans quelques instants sur les antennes de Radio Campus.
Je connais les bails, ouais, tous les petits détails. Ego, je suis pas nia. J'ai capté que t'étais bizarre. À part, je suis à part, tu veux trouver comme moi, y'a pas. J't'ai donné les clés, chérie. Au final, nous deux, ça c'est fini. Tu croyais que moi, j'étais attaché à toi. Maintenant, tu me dis papa, mais j'te dis bye.
C'était fin d'Aya Nakamura, vous écoutez notre deuxième émission en direct des Assises du Journalisme de Tours, consacrée aux discriminations sexistes dans le monde du journalisme de sport. Et le choix de ce morceau n'est pas innocent, car bien qu'elle soit l'artiste française la plus écoutée dans le monde, elle est pourtant victime d'une vague d'harcèlement et de misogynie noire, une forme de misogynie ciblant principalement les femmes noires, et l'équipe de toute cette émission lui apporte évidemment son soutien.
Les Radio Campus en direct des Assises Internationales du Journalisme de Tours, Femmes et Sport, 16h-17h.
Les discriminations envers les sportives existent également à travers les nouveaux sports émergents comme l'e-sport. Cette discipline, connue pour des jeux comme League of Legends ou Rocket League, subit un sexisme ambiant qui empêche l'ascension des femmes dans ce sport. Julien a rencontré Paul Arrivé, journaliste spécialisé dans l'e-sport pour le média L'Équipe. Il revient sur la place des femmes dans cette discipline.
Pour finir, j'aimerais qu'on aborde un dernier sujet. qui traite autour de la place des femmes dans l'e-sport.
Ouais.
Parce que donc effectivement dans le sport traditionnel les femmes prennent de plus en plus de place. Dans une certaine mesure c'est aussi un petit peu le cas dans l'e-sport. Quand on regarde les chiffres, si je dis pas de bêtises, je regardais les chiffres il y a pas longtemps autour des joueurs semi-professionnels, et où je crois qu'il y a genre 95% d'hommes et 5% de femmes. Enfin, c'est ce genre d'équilibre, c'est vraiment très très déséquilibré.
Ouais.
Encore plus que dans le sport traditionnel. Quelle est aujourd'hui la place des femmes dans l'e-sport? Est-ce que ça progresse? Est-ce qu'on est dans un environnement qui tend à donner sa place aux femmes aussi dans l'e-sport?
Alors je dirais oui, qui tend vers, parce que la réalité du milieu est quand même beaucoup plus sombre, on va dire. Disons que, en fait, ce qui est intéressant quand même à constater, c'est que l'e-sport est une discipline mixte. On fait pas de différence physique,
ouais.
Et donc il y a rien qui empêche, sur le principe, des femmes de jouer au même niveau que les hommes dans les mêmes équipes ou les affronter. Et on le voit d'ailleurs. Il y a des exemples de ça. Il y a eu des femmes championnes du monde, notamment Hearthstone par exemple, qui a remporté une compétition d'Hearthstone. Mais il y a quand même, comme tu l'as dit, un gros écart de représentation et beaucoup de misogynie, de sexisme à l'intérieur de cette discipline, et notamment au niveau plus amateur, qui en fait crée des barrières pour les femmes pour monter en niveau et être à la lutte finalement avec les meilleurs hommes sur ces disciplines, sur ces e-sports, sur ces jeux. Donc en fait c'est plurifactoriel, mais voilà, et c'est un peu le constat terrible qu'on fait aujourd'hui. Mais on voit de plus en plus du coup de compétitions réservées aux femmes voir le jour, et je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet d'offrir un environnement compétitif qui permet de aux femmes de se développer, d'avoir un environnement en fait sain, mine de rien. On ne devrait pas en arriver là, hein, concrètement, mais c'est la réalité très triste de la société qui se reflète au niveau du jeu vidéo, et c'est peut-être encore plus exacerbé, ouais, dans le jeu vidéo. Et c'est bien d'avoir ces compétitions-là aujourd'hui qui permettent de faire émerger des modèles, qui font émerger des nouveaux groupes de spectateurs. Il y a plus de femmes qui s'intéressent du coup aux compétitions, qui vont jouer, qui vont se dire « Ah, mais ça peut devenir un objectif aussi pour moi de participer d'abord à ces compétitions-là ». Mais il faut quand même garder, je pense que c'est important en tête, à long terme, que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces différences-là. Et on doit conserver un peu ces spécificités. Mais aujourd'hui, c'est hyper dur d'être une femme dans l'e-sport et vouloir percer, c'est très compliqué. Mais il y a du progrès. C'est juste qu'on part de tellement loin que c'est pas très compliqué de faire du progrès, quoi.
Est-ce que les structures traditionnelles jouent le jeu un petit peu autour des femmes?
Oui, elles jouent le jeu. On voit de plus en plus, justement, ces compétitions exclusivement féminines. Il y a de plus en plus de structures professionnelles, des clubs pro qui participent et qui, pour qui c'est important même de se dire il faut qu'on soit présent aussi sur ces questions-là, et on ne peut pas se permettre de se priver pour je ne sais quelle raison du public féminin, et on doit travailler aussi ces choses-là nous-mêmes, et on doit faire partie du changement en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit, notamment la Carmine Corp qui est présente en Game Changers, Vitality, Solary, avoir des équipes féminines sur League of Legends également. Mais il y a tout à mon avis un pan d'éducation à faire, que ce soit chez les joueurs ou chez les fans d'e-sport, où on sent qu'il y a quand même encore beaucoup sur les réseaux sociaux et à l'intérieur même des jeux un sexisme plus que latent, qui est visible et qui est terrifiant et qui vient bloquer l'ascension et comment dire le fait que l'e-sport devrait être une discipline mixte dans les faits.
Comme Paul Arrivé nous l'a expliqué, le sexisme est également très présent dans l'e-sport. On peut tout de même garder un peu d'espoir sur son évolution, car des initiatives sont prises pour que l'environnement devienne plus sain pour les femmes à l'avenir.
Les Radio Campus, en direct des Assises internationales du journalisme de Tours, Femmes et Sport, 16h-17h.
Que ce soit dans les rédactions ou sur le terrain, le sexisme est présent et les femmes sportives doivent redoubler de 2 ou 3 fois plus d'efforts pour être reconnues. Alice a rencontré Mia Boussac-Boutier lors de la conférence Femmes, Sport et Médias organisée ce mardi 26 mars à l'Université de Tours dans le cadre des Assises. Cette rugbywoman d'élite du Stade Rochelais revient sur les difficultés qu'elle rencontre et affirme que les médias ont une responsabilité quant à leur manque de reconnaissance dans le milieu du sport.
Alors, je m'appelle Mia Moussac-Boutier, je suis étudiante à l'Université de Tours en psychologie, j'ai 22 ans et je suis en parallèle sportive de haut niveau. Alors, je ne pratique pas mon sport à Tours, je pratique mon sport à La Rochelle parce que c'était plus intéressant en termes de niveau. Mais voilà, j'ai été contactée par mon université pour représenter les sportifs de haut niveau dans l'université et aussi parce que c'était intéressant de voir, je pense, mon parcours un peu atypique de sportif du fait que je suis sur deux villes. Je pense que c'était intéressant et du fait qu'en plus, je fasse peut-être aussi partie d'un club qui est très médiatisé, qui est le Stade Rochelet. Donc, voir un peu ce qu'il y avait dans les dessous du sport féminin dans le Stade Rochelet. Donc voilà, je pense que c'est intéressant.
Et justement, qu'est-ce qu'il y a dans les dessous du sport féminin au Stade Rochelet ?
Il y a beaucoup de choses positives. Faut pas relever que le négatif, mais des qualités d'infrastructure et de qualité d'entraînement, de coach, d'accompagnement, de soignants, de dirigeants même. On n'en parle pas assez, mais de très haute qualité et qui nous accompagne coûte que coûte et qui mène le même combat que nous en tant que sportive et qui se démène de front dans le club pour qu'on existe. Aussi les médias, la com au sein du Stade Rochelet qui essaye de nous faire beaucoup plus exister au sein du club. Donc ça nous a beaucoup touché en tout cas ces derniers temps. Après il y a aussi le fait qu'on soit considéré comme sportive amatrice, mais qu'on nous demande des exigences de sportif professionnel. Et donc, il y a un espèce de paradoxe qui se crée entre ces deux statuts qui fait que on s'investit beaucoup dans des choses où on ne nous rend pas l'appareil, dans la considération. Je donnais l'exemple là tout à l'heure parce que je pense que c'est un bon exemple, mais on a changé de sponsor il y a 2-3 ans. On est passé de Hungaria à Adidas pour tout ce qui est équipement, etc. Et sur la vidéo sponsor qui avait été présentée sur le compte Instagram du club, il y avait une super vidéo qui a été super bien montée, qui montrait toute l'école de rugby, des U6, U10, les cadets, les espoirs, les professionnels, toutes les catégories de joueurs de rugby qu'ils pouvaient avoir au Stade Rochelet. Mais pas les joueuses. Il n'y avait pas une image de filles, sachant que je pense que moi, à mon époque, j'aurais bien aimé voir plus d'équipes féminines dans un club où on se comptait sur les doigts d'une main pour faire une équipe. Et que là, on a un vivier de joueuses, de jeunes joueuses qui est hyper présent et qui a aucun moment été représenté, même nous, pourtant, qui jouons un statut élite, donc de haut niveau, considéré en tout cas comme le niveau, et pas représenté sur cette vidéo, c'est quand même assez fou.
On reparlera de la représentation des femmes des femmes sportives dans les médias et dans leur propre communication à l'échelle de leur club. Mais moi, j'aimerais revenir sur le fait que du coup, tu es en Elite 2, la deuxième division. Vous avez été 2 fois vice-championne de France, mais par contre, tu dois travailler à côté de tes études pour tout ça parce que tu n'as pas de contrat en fait professionnel.
Non, du tout, j'ai pas de contrat professionnel. C'est vraiment purement du loisir, même si on a du mal à le concevoir comme ça quand on en parle autour de nous, mais c'est vraiment purement du loisir. Alors bien sûr, on a des aides financières qui sont quand même à prendre en compte et que pas tous les clubs d'élite, que ce soit Elite 1 ou Elite 2, je pense que même on est très bien aidé par rapport à quelques clubs d'Elite 1, mais on a des aides financières. Moi, je disais sur mon loyer, sur mon forfait de train pour faire mes allers-retours entre Tours et La Rochelle. J'ai aucun frais par rapport à ça. J'ai même des primes de match qui s'élèvent à une hauteur de 50 euros par match. Alors ça paraît rien comme ça par rapport à d'autres, mais nous, on est quand même très contentes de les avoir pour payer nos courses, notre essence, tous ces frais-là qui sont à considérer. Mais oui, je me rappelle plus de la question initiale, mais c'était...
Vous n'avez pas de contrat de...
Non, on n'a pas de contrat, à part une charte, une licence qu'on signe en début d'année, voilà. Et pourtant, on nous demande quand même des exigences de présence ou d'action auprès d'associations partenaires avec le Stade Rochelet, que je trouve très bien de nous inclure dans la vie associative, mais faut voir à quel temps par rapport à nos études, à notre emploi qui est à côté, nos performances sportives, nos entraînements. Et je pense que quand on nous demande autant à nous et à des garçons qui n'avons pas les mêmes, clairement, les mêmes semaines type, c'est un peu quand même un peu contraignant.
Et là, on va parler un peu plus du journalisme sportif et comment il traite des femmes sportives. Toi, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui en 2024? Est-ce que tu penses qu'on est pas mal ou il y a encore du chemin à faire?
Je pense que c'est quand même, même si ça l'a été souligner, mais un peu de façon piquante, on s'améliore. Enfin, faut pas non plus se leurrer, on s'améliore. C'est trop lent, mais on s'améliore quand même. Je préfère ça que ça stagne. Mais ouais, on doit encore plus développer. C'est ce que je disais. On est plus interviewé ou des choses comme ça sur les journaux locaux. Ça c'est top. Après, qui sur les journaux locaux s'intéresse déjà à la rubrique sportive, et en plus sur les journaux locaux qui sont pas lus par la grande majorité du public qui lise la presse. Donc voilà, je pense que ce qui est important, c'est d'aller chercher les sportives dans leur club, en fait, à la source. Pas attendre qu'elles aient des titres, parce qu'en fait, pour qu'elles aient des titres, il faut qu'elles soient soutenues. Et c'est pas que l'après qui est important, c'est l'avant aussi, la préparation. Je pense que c'est ça, en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, comment on va s'approcher des phases finales, et pour autant, on a nos partiels à passer, qui sont des périodes stressantes, plein de choses comme ça, et je pense qu'il pourrait intéresser aussi le public, ou même, je sais pas, les institutions, à mettre en place des choses pour faciliter la vie des sportifs. Alors, on parle des sportifs, mais ça peut être des artistes aussi, voilà.
Et est-ce que tu penses justement que les médias ont une responsabilité sur votre visibilité en tant que femme sportive? Le fait que, en fait, vous devez vous démener toute seule pour trouver des sponsors, tu trouves ça normal? Est-ce que tu penses justement que les médias ont une responsabilité là-dedans?
Bien sûr, les médias et même les clubs. Moi, quand j'ai eu une réunion avec le président du club du Stade Rochelet, avec toute mon équipe et tout le staff féminin, pour discuter des différents points qu'on voulait aborder et qui était très intéressant d'ailleurs comme conversation. On nous dit un peu à demi-mot, pour qu'on vous fasse de la pub, faut que vous gagniez des titres parce que c'est ça qui fait venir. Mais alors oui, je veux bien que ce soit ça qui fasse venir parce que c'est ça dont on va, c'est ça qui va marquer en fait les esprits. Mais est-ce que c'est pas déjà de la responsabilité des clubs de nous mettre en avant, de eux-mêmes contacter la presse qui est peut-être pas assez informée aussi sur ces domaines-là? Est-ce que c'est pas aussi à la presse de, comme on disait tout à l'heure, d'aller nous chercher directement dans les clubs? Je parle d'équipes là où il y a plein de choses à dire, mais aussi sur des sports individuels, il y a toute une préparation derrière à prendre en compte, et je pense qu'il est vraiment intéressant pour tous, quoi.
Et là, tu étais entourée de plein de femmes, des femmes sportives, mais aussi des femmes journalistes, des femmes qui sont les deux. Est-ce que tu aurais un message à leur passer, surtout aux femmes journalistes?
Eh bien, déjà que je salue leur combat, parce que je pense quand même qu'elles sont dans un combat permanent, même si j'étais pas tout à fait d'accord avec tout ce qui avait été dit, mais quand même à remarquer qu'elles mènent quand même un combat de front et qu'elles essaient de pas lâcher l'affaire. Et je pense qu'il y a aussi une pression sociale ou des stéréotypes qui rentrent un peu en tête, même si on veut les inhiber, ça à force d'être dans le milieu, je pense que ça nous reste un peu ancré dans la tête, et on nous habitue un peu à certaines choses qui devraient pas être communes, mais voilà, les encourager à continuer ça. Je pense qu'il y a du monde derrière qui sera les soutenir, et puis je tenais à dire aussi qu'il n'y avait pas ce combat qui devait être mené que par des femmes, c'est aussi par les hommes. Je pense que c'est aussi aux hommes d'accepter de laisser place aux femmes, de les accompagner. Le but, c'est non pas qu'il y ait une supériorité de la gente féminine dans tous les domaines, que ce soit le journalisme, le sport ou la politique ou peu importe, mais qu'il y ait une égalité ou une parité, ou en tout cas d'être considéré de la même manière avec chacun des idées à faire pour voir, quoi.
Et à toutes, nous on est le réseau Radio Campus France, donc il y a plein d'étudiantes qui nous écoutent, il y a plein d'étudiantes qui doivent rêver sûrement de carrière sportive. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner?
Alors déjà, premier conseil, c'est de vous assurer une carrière autre que le sport, parce que même si le sport c'est notre passion et qu'on pourrait tout donner pour, sans parler du fait que dans tous les sports on n'a pas de contrat pro, mais même si on avait un contrat pro, la blessure c'est vite arrivé, et qu'il faut assurer ses arrières. Ça peut être n'importe quoi, hein. Faites des études ou faites des formations, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose à côté aussi qui vous plaise, et pas par défaut à tout prix pour le sport, parce que le sport, ça dure pas jusqu'à nos 80 ans. C'est quelque chose qui finalement s'arrête assez vite, même si c'est une partie très prenante de notre vie. Ou alors à continuer dans le sport sous d'autres aspects, mais s'assurer une carrière autre que la carrière d'une sportive de haut niveau. Et aussi ne pas... voilà, c'est un peu cliché, mais continuer à lutter sur les stéréotypes qui se font autour des femmes sportives. Des corps musclés, c'est pas des corps d'hommes. Des femmes qui sont sportives, c'est pas des femmes bêtes, c'est des femmes qui peuvent même être très intelligente, parce que le sport, ça demande une certaine réflexion, une certaine intelligence, notamment sur la stratégie ou la perception de l'adversaire ou de son équipe aussi. Ne pas lâcher ces aspects-là, je pense que c'est le plus important.
Est-ce qu'il faut aussi s'entraider en tant que femme là-dedans ? On nous met souvent en compétition, et encore plus dans le sport. Est-ce que justement, faut contrer ça ?
Ouais, il faut soutenir. Après, la concurrence, c'est comme partout. Il y en a dans le sport, mais il y en a dans tous les aspects professionnels. Il faut de la concurrence saine, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il est meilleur que soi, mais par contre, il faut accepter de devoir tout donner, parce qu'on peut être aussi meilleur que les autres, mais de façon saine, en fait, parce qu'on a travaillé pour, ou qu'on a des qualités à faire valoir. Mais voilà, prenez vraiment ça, se soutenir. Moi, je sais qu'au Stade Rochelet, la dimanche, on joue au grand stade Marcel Deflandre, donc c'est une grosse valorisation pour nous aussi de jouer dans des grands stades comme ça. Et l'équipe féminine de basket du Stade Rochelet vient nous voir jouer. Et nous, inversement, on va les voir jouer. C'est très important de se soutenir dans les intersports aussi, parce qu'on a les mêmes combats finalement.
Et comme le démontre le témoignage de Mia, être une femme et viser une carrière sportive, ce n'est pas sans difficulté, mais c'est possible. Beaucoup de femmes se battent pour déconstruire les clichés et montrer l'exemple aux prochaines générations.
C'est le cas de Delphine Chéniaud, professeure d'EPS à Tours, qui part dans 10 jours à l'assaut de l'Everest afin de montrer que les femmes sont tout aussi capables que les hommes de gravir le toit du monde. L'alpiniste revient sur l'importance de voir des femmes réaliser des projets d'envergure.
Bonjour Delphine Chéniaud. Alors vous êtes professeure d'EPS au collège Jules Ferry. Et là, dans 10 jours, vous allez entreprendre de gravir l'Everest. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous voulez faire ce projet, s'il vous plaît ?
Alors effectivement, c'est un projet qui est en place depuis 2 ans. On a commencé il y a 2 ans. C'est un projet en fait où on avait un engagement sociétal, la place de la femme, parce qu'effectivement, on n'a que 14 femmes françaises qui sont parvenues au sommet de l'Everest. Et effectivement, c'est montrer aussi que nous, on est capable, de mettre en place des projets. Alors c'est pas des projets simples, hein, mais mettre en place des projets, que ce soit sur l'entraînement. Sur un entraînement physique, mental, toute la préparation de l'événement, et qu'on est aussi capable de faire ça que les hommes. Voilà.
Justement, vous l'avez rappelé, que ce soit pour l'Everest ou dans l'alpinisme en général, c'est plutôt un milieu majoritairement masculin. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez eu des différences de traitement en tant que femme, justement, aux différentes ascensions ?
Non, pas du tout. Moi, j'ai pas forcément ressenti ça. Alors, sur la dernière cordée, on était 6 là pour le Kirghizistan, là pour faire le pic Lénine. On est sur les 6, il y avait 4 hommes et 2 femmes. Et sur les personnes qui sont arrivées en haut, c'était les 2 femmes plus un homme. Donc, on était plutôt fiers. Mais non, j'ai jamais du tout ressenti qu'on me disait que je me sentais pas, enfin que j'étais pas à ma place, quoi.
Et au niveau du traitement médiatique, est-ce que vous trouvez qu'il est à la hauteur dans le milieu de l'alpinisme pour les femmes ?
On n'entend pas du tout, très peu parler. Là, il y a eu le gros événement avec les 14 sommets de Sophie Laveau. C'est juste génial, mais c'est vrai que c'est pas une activité qui est médiatisée, ça c'est sûr.
Évidemment, on souhaite beaucoup de réussite à Delphine pour son ascension de l'Everest. Vous pouvez d'ailleurs la suivre en direct sur son Facebook.
Nous en parlons depuis le début de l'émission. Les femmes dans le milieu du sport subissent beaucoup de discrimination à cause de leur genre, et pour certaines, le racisme s'y ajoute. Même si la situation n'est pas parfaite, la nouvelle génération souhaite changer la donne. Nous l'avons pu l'entendre avec Emeline Audi ou Medjeline Miri. D'autant plus que les premiers signes de discrimination se font dès la formation. Simone, tu l'as constaté en te rendant à la conférence quand les jeunes femmes journalistes de sport occupent le terrain.
Oui, et j'ai d'abord rencontré Camille Michaeli. Elle est étudiante à l'EGICAM, l'école de journalisme de Marseille, et elle soulève quelques problèmes auxquels elle a pu être confrontée.
On a déjà des intervenants qui, en voyant justement une promo de filles, ont déjà levé les yeux au ciel en disant « on va pas parler de sport cette année », ou alors en disant « mais en fait, oui, bon, j'ai un peu de mal avec les prénoms des filles, vous ferez gaffe, le prenez pas mal, je retiens mieux les garçons. » C'est 2-3 petites remarques comme ça, ça paraît un peu anodin, mais au final ça fait partie de tout un système qui te met pas en confiance, parce qu'en fait ces deux intervenants là c'est des journalistes sportifs, et tu te sens peut-être pas à l'aise ensuite ou légitime d'aller lui poser la question, d'aller chercher des infos. Moi je veux faire ça, je veux m'orienter là, comment je rentre dans tel ou tel média? Et c'est compliqué des fois d'avoir affaire à des intervenants qui se mettent pas à notre place, parce que des intervenants femmes en journalisme de sport, il y en a très peu, voire pas.
Pauline Guillouel est pigiste, spécialisée dans le sport. Elle est déjà sortie de l'école. Elle aussi a constaté des problèmes au moment de sa formation.
Quand on est en école, pour moi, le plus difficile, ça va être... c'est un peu un schéma que j'ai retrouvé ensuite dans les rédactions, c'est le regard des autres. Moi, c'est comme je disais pendant l'intervention, c'est que j'étais la seule, en fait, au milieu de garçons qui voulaient faire du journalisme de sport. Donc forcément, il y a un peu un côté où presque eux, ils vont avoir une légitimité en plus. En fait, on est toujours autour des questions de légitimité, en fait, j'ai l'impression, dans ce métier, dans ce milieu en général. Donc ensuite, voilà, donc ça va être pour moi une des principales difficultés. Peut-être que eux, ils vont avoir plus de culot, ils vont peut-être plus avoir de connaissances aussi, c'est une vérité, ça. Et ensuite, voilà, bah, c'est encore ça, on se retrouve dans des concours avec que des hommes, et puis il faut réussir à s'imposer au milieu de tout ça, et parfois c'est un peu difficile.
Un peu difficile, surtout quand son école est peu encourageante, c'est en tout cas le ressenti de Pauline Guillou.
Mon école, je trouve qu'elle n'a pas été à la hauteur de mon ambition. C'est une sensation que j'ai eue, c'est qu'en fait on m'a poussée forcément à passer davantage les concours des écoles, enfin des médias généralistes, alors que mon souhait depuis le M1, depuis le premier jour du master, c'était de faire du journalisme sportif, en fait. Sur certains projets, on m'a mis des bâtons dans les roues, et je trouve ça très dommage, parce que enfin aujourd'hui ça m'a pas donné confiance, en fait. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire, et c'était aussi quelque chose que j'ai dit dans une conférence avec la CEJ. J'ai dit, pour moi la CEJ, elle a aussi c'est la conférence des écoles de journalisme, elle a une responsabilité à prendre, parce qu'on ne parle pas d'une spécialité comme une autre. Pour moi, le journalisme de sport, ce n'est pas une spécialité. On ne parle pas d'une toute petite rubrique. On parle de médias entiers. On parle de... Enfin, genre, c'est le journalisme sportif, il est surpuissant. Les événements sportifs, il y en a tout le temps. Donc, ce n'est pas qu'une toute petite rubrique. Donc, en fait, je pense que la CEJ a aussi son rôle à jouer là-dedans.
Alors, pour pallier ces manquements dans les formations des journalistes, les journalistes se sont réunis pour créer le collectif Femmes Journalistes de Sport. Pauline Guillou en fait d'ailleurs partie, et elle nous présente les actions menées.
Ce qu'on met en place, bon, déjà nous on s'est recensé, donc maintenant on sait qui on est, on sait qui fait quoi, on sait qui et où. Ça c'est déjà une première chose qui est assez importante. Deuxième chose, c'est qu'en fait on fait circuler les offres d'emploi les unes envers les autres. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de sororité, donc c'est quelque chose d'assez important. Pour les étudiantes aussi, c'est l'occasion, on fait circuler des offres d'emploi, mais aussi de stages. Les étudiantes, elles ont accès à nos contacts, à nos mails, à nos numéros, donc elles peuvent aussi nous solliciter. Il y a un système de marrainage de marrainage. Donc voilà, on n'est pas une association, on n'a pas les clés de tout, en fait, on n'a pas une baguette magique, et on va pas placer tout le monde dans les rédactions, mais au moins on est ensemble, et ça pour moi c'est une des choses les plus importantes, en fait.
Autre dispositif mené par le collectif, le programme Pas de jeu sans elle, lancé en 2022. Camille Michaeli fait d'ailleurs partie de celles qui en bénéficient.
C'est une initiative en partenariat avec la FDJ et Impact 2024. Donc le but, c'est d'avoir une promotion d'environ une trentaine de jeunes femmes, journalistes de sport ou pas encore, qui sont formées avec d'autres professionnels à pouvoir, alors idéalement, couvrir les JO, mais de manière générale, à être journaliste de sport.
Et s'il ne sera plus question de jeu après 2024, il n'est pas impossible que le dispositif se poursuive sous une autre forme.
L'émission touche à sa fin, mais avant de vous quitter, nous souhaitions revenir sur la soirée débat Femmes, Sport et Médias, qui a réuni 8 sportives journalistes, ou sportives et journalistes, afin d'échanger sur la place des femmes qui pratiquent le sport dans le milieu médiatique.
Une tribune exclusivement féminine, donc, et c'est assez rare pour être soulignée. À titre de comparaison, selon Laurence Péco-Rivolier de l'ARCOM, présente ce soir-là, 60% des plateaux de télé de sport sont exclusivement masculins. Une soirée source d'espoir, donc, et annonciatrice de changement. C'est en tout cas ce que pense cette jeune étudiante à l'EPJT, l'école de journalisme de Tours, venue assister au débat.
Bah, en fait, ça fait du bien de voir une présence féminine, que ça soit ici, dans cette conférence, ou encore sur les plateaux. D'ailleurs, elles ont évoqué le fait que, notamment dans la presse sportive, il y a très peu de femmes présentes sur le plateau. Faudrait que ça change, faudrait que ça bouge. Par contre, je vois que, bien évidemment, il y a beaucoup de... Et d'ailleurs, elles en ont parlé, c'est qu'il y a déjà beaucoup de progrès, que ça avance peut-être lentement, mais... Du moment où du moment où il y a des initiatives, où il y a déjà cette conscience de parité. Alors déjà, ça, c'est un bon début.
C'est la fin de notre émission. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont répondu à nos questions. Medjeni Miri, Emeline Audi, Paul Arrivé, Mia Boussac-Boutier, Delphine Chéniaud, Pauline Guillou et Camille Micaeli.
Un grand merci aux Assises du journalisme de Tours pour l'accueil et pour la mise à disposition de l'espace où nous enregistrons aujourd'hui.
Merci évidemment à toute l'équipe rédactionnelle pour la réalisation de cette émission. Lucas, Johan, Julien, Quentin, Axel, merci à Kylian pour la technique et à toi Simon pour cette co-animation.
Merci également à toi Alice, mais évidemment merci à vous, chères auditrices et auditeurs. On vous quitte avec les Vulves Assassines et leur titre Queen Kong. À l'année prochaine.
Les Radio Campus en direct des Assises internationales du journalisme de Tours, Femmes et Sport, 16h-17h.